Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'être venus assister à cette conférence. Donc, nous accueillons ce soir Andrea Marcolongo, voilà, et qui est donc l'auteur de ce livre dont nous allons parler, La part du héros, aux éditions Belles Lettres. Je vous présente également Loredana Venuti, qui est donc italienne de Venise, qui est guide interprète et qui va nous aider pendant cette rencontre. Donc, Andrea Marcolongo comprend très bien le français. Elle le parle aussi, je pense, assez bien, même très bien. Mais peut-être est-ce qu'elle voudra, pour plus de précision dans ses réponses, parler donc dans sa langue maternelle. Voilà. Donc, tout de suite, donc, nous entrons un petit peu dans le vif du sujet. Andrea Marcolongo, vous avez, il y a 3 ans, publié en Italie un petit livre qui a été un très grand succès. Je l'ai apporté avec moi. Il s'appelle « La langue géniale ». C'est un petit livre dans lequel vous faites un peu une déclaration d'amour au grec, qui est donc cette langue que vous avez découverte au collège ou au lycée et qui, depuis cette époque-là, ne vous a plus quitté. Vous avez voulu partager cette expérience linguistique ancienne et vous avez donné les 10 raisons d'aimer cette langue. La langue de l'Iliade, la langue de l'Odyssée et puis également donc la langue de cette légende dont nous allons parler tout de suite, qui est la légende des Argonautes, une légende très importante qui est antérieure à Homère, antérieure à l'Iliade et à l'Odyssée, mais une légende qui a été racontée bien plus tard, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, par un auteur, donc à l'époque d'Alexandre, par un auteur qui s'appelle Apollonios de Rhodes. Voilà, donc c'est l'histoire donc, de Jason et de ses compagnons qui partent en bateau depuis le nord de la Grèce pour aller conquérir la fameuse Toison d'or qui est donc située quelque part dans l'actuel, ce qu'on appelait à l'époque le pont Euxin, mais qui aujourd'hui s'appelle la mer Noire, donc au nord de la Grèce. Voilà, en passant par des endroits très dangereux, comme par exemple le Bosphore, l'Hellespont. Alors, Andrea Marcolongo, donc, vous avez voulu reparler de cette légende, mais ce n'est pas une traduction de la légende des Argonautes, c'est une méditation très personnelle autour de cette légende, dans laquelle vous nous racontez tout ce qui s'est passé et dans laquelle vous nous dites aussi combien cette légende a été importante pour vous. Comment peut-être, peut-on dire, est né ce projet littéraire ?
Merci à vous tous d'être ici. Et donc, je vais parler en italien maintenant. È una storia molto molto lunga, la nascita di questo libro, La part du héros, e sono felice di raccontarla ora.
Excusez-moi, j'étais enchantée à sa voix. Elle dit que c'est en effet une histoire très longue et elle est très heureuse de vous la raconter aujourd'hui.
Perché ritorno con la memoria a quando 4 anni fa, 5, non sono molto brava col tempo, ho scelto di scrivere quel mio primo libro, La langue géniale. Nessuno credeva in me. Mi dicevano, una ragazza di 28 anni che parla di greco nel 2015, ma i miei amici mi dicevano non venderai nemmeno una copia, grazie. Nessuno credeva in me, è stata la mia fortuna perché sono stata libera di ogni pressione e ho potuto mettere tutta la mia passione che risale ai tempi del liceo fino all'università passando da Virginia Woolf a Jacqueline Romini in quel piccolo libro.
Elle dit que, en effet, il y a 4 ou 5 ans, Andrea, elle a une dimension du temps qui est un peu particulière. Et quand elle a décidé d'écrire le premier livre, La langue géniale, elle n'a pas trouvé le réconfort parmi les amis. Et tout le monde lui disait, mais écoute, le grec en 2015, personne ne va lire ce livre. Et elle a trouvé la liberté. Et elle a pu exprimer la passion qu'elle avait découverte quand elle était au lycée et puis dans les études supérieures jusqu'à l'université. Et donc là, c'est toute l'expérience littéraire qui est passée aussi à travers Virginia Woolf et les autres.
poi è accaduto che questo piccolo libro ha avuto tanto tanto successo, 32 paesi, 1 milione di copie nel mondo, da Singapore al Perù. E nello stesso momento sono arrivate quelle che io chiamo le sirene, poi magari vi racconto dopo cosa intendo per mito. Le sirene contemporanee. A un certo momento ho smesso di essere una donna, sono diventata un caso editoriale. E gli editori volevano da me, la Lang Genial, 2, 3, 4 e 5, come fosse una serie TV o un episodio di Guerre Stellari. È stato molto difficile dire no. Però è stato un atto di fedeltà nei confronti prima di tutto miei, poi di quello che per me significa classico e soprattutto nei vostri confronti dei lettori. Non potrei mai essere qui a Bordeaux a guardarvi negli occhi sapendo che avete tra le mani qualcosa che non è mio.
Allora, c'est vrai que le petit livre qu'elle a écrit, elle a eu beaucoup de succès. Dans 32 pays, il a été traduit. Millions de copies ont été vendues. Et à ce moment précis, elle dit il y a les sirènes qui arrivent, c'est les sirènes contemporaines. Et elle se rend compte, en ce moment précis, qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est la modernité, c'est le contemporain. Donc, on lui demande d'écrire encore une autre copie et une autre copie, comme si c'était une série, les séries. Et donc, elle ressent qu'elle n'est plus une femme, mais pour une question de fidélité à elle-même, à l'amour et à la passion pour tout ce qui est classique, et aussi pour l'amour qu'elle a envers vous, les lecteurs, elle a dit non, elle a fait un choix. Et donc, elle a changé et elle vous propose le livre dont on va parler ce soir.
Non è stato così semplice poi scrivere questo libro, anzi, non mi imbarazzo, arrivo ora dalla Spagna dove è stato appena pubblicato, non mi imbarazzo a dire che io non l'ho mai riletto da quando è in libreria, perché per me è così forte, è stato così forte scriverlo, che in qualche modo è formidabile in senso etimologico. Così bello da fare paura, mi fa paura.
Donc écrire ce livre n'a pas été simple. Elle arrive d'Espagne où il vient d'être publié et Andrea n'a jamais relu le livre. C'était vraiment très fort l'écrire et elle a ressenti aussi la beauté qu'il y a dedans.
E quindi quando mi sono trovata, superate le sirene, a scegliere, intanto a capire che donna e scrittrice fossi diventata e poi a scegliere cosa scrivere, perché penso sempre che i libri si scrivono perché si ha bisogno di dire qualcosa, se no non è obbligatorio scriverli, ho preso tempo. Nella vita faccio sempre così, lo so che oggi la velocità è diventata un valore, dobbiamo vivere tutti come se fossimo un TGV. Ma io dico sempre che quando si prende tempo per capire chi si è, poi lo si risparmia, perché si va dritti alla meta.
Allora, surpassé les sirènes, elle a essayé de comprendre quelle femme elle était devenue après avoir écrit son premier livre. Et elle a pris un peu de recul, elle a pris un peu de temps pour choisir quel livre écrire. Et même si le monde contemporain demande la rapidité, elle a attendu. Et voilà.
E quindi come sono arrivati questi argonauti tra noi? È un mito che mi porto dentro dai tempi dell'università, essendomi laureata sulla tragedia Medea di Seneca. E dopo aver scritto della lingua greca, della grammatica greca, volevo tentare una sfida intellettuale di parlare dell'animo umano attraverso il mito, Scrivere di mito non significa scrivere di passato, ma assolutamente di presente. Perché il mito davvero non è storia, quindi non c'è una nave Argo in qualche museo del mondo, non è favola, è davvero l'universalità degli esseri umani. Quindi il mito non è qualcosa di diacronico, è sincronico. Io sono convinta che l'essere umano abbia bisogno di piangere, scoprirsi, amare, soffrire. 5.000 anni fa, a bordo di Argo, come oggi, a Bordeaux.
Dunque, le thème des Argonautes, c'est un thème très cher à Andrea, qui l'a vraiment découvert à l'université quand elle a présenté, elle a fait des études sur la tragédie de Médée. Elle dit, c'est pas une histoire, le mythe, j'ai cherché de parler de l'âme et de quelque chose d'intime à travers le mythe. Il n'y a pas un navire qui s'appelle Argo dans le monde, mais comme il y a 5000 ans, tout le monde, on est dans un bateau. Et on voudrait parler des choses intimes, des choses qui nous touchent le cœur, d'amour et des larmes, comme elle a réussi à faire dans ce livre.
Alors, Andrea Marcolongo, il y a deux bateaux dans ce livre. Il y a Argo, c'est l'arc qui donne son nom aux Argonautes, hein, ils sont les navigateurs d'Argo, tous très jeunes, ils sont des hommes, ils sont jeunes, ils ne connaissent rien de la vie, ils savent simplement qu'ils veulent partir conquérir quelque chose. Alors on comprend que derrière la Toison d'Or, il y a un voyage initiatique, c'est-à-dire conquérir autre chose qu'un objet, c'est conquérir des valeurs, sans doute. En tout cas, ils ne le savent pas encore. Il y a ce bateau, c'est le premier bateau, c'est un bateau qui ne va pas sombrer parce qu'il est protégé par Athéna. Mais il y a aussi il y a un autre bateau dans ce livre, c'est un bateau dont vous parlez tout le temps. C'est un petit livre de 1942 que vous avez sur votre table de chevet, dans votre valise depuis toujours, qui s'appelle « Comment abandonner un bateau ». C'est un livre qui a été écrit par des marins britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui raconte tout simplement comment on fait pour quitter un bateau qui va sombrer. Comment faire pour se sauver d'un bateau qui sombre. Alors nous passons sans arrêt, Andrea Marcolongo, de ce bateau qui flotte vers un voyage initiatique et puis ce bateau dont il faut en permanence regarder l'état pour savoir s'il n'est pas en train de couler. Alors, comment faites-vous pour passer du mythe des Argonautes, il y a 3000 ans, à ces bateaux qui sombrent aujourd'hui dans notre vie? Et quel lien faites-vous entre les deux?
Grazie. Adoro questa domanda perché la scelta di avere in esergo, cioè in apertura di ogni capitolo, una citazione di questo manuale inglese del 1942 è da subito sembrata bizzarra quando scrivevo il libro, eppure l'ho fortemente voluta.
Allora, elle adore la question que Monsieur Lucet lui a proposé, et c'est vrai que elle a le plaisir de répondre. Elle trouvait que c'était un peu bizarre.
Pas moi, je l'ai trouvé. C'était l'éditeur.
L'auteur.
Il faut aussi dire que Parson a eu du succès en écrivant des Argonautes. Même Apollone de Rhodes, quand je dis ça à mon éditeur, moi je suis beaucoup ironique, moi je viens de la Toscane, je dis, mais tu sais que Parson au monde a eu de la chance en écrivant des Argonautes. Il m'a dit, est-ce que tu peux écrire de l'Iliade ou quelque chose d'autre? Mais maintenant tout le monde est content. Tout le monde est héroïque. Bon. Avant deux années, tout le monde était génial et maintenant tu es héroïque. Mais bon, je vais répondre à la question. Volevo aggiungere una cosa, ma anche per cogliere l'occasione di ringraziare chi mi ha sostenuta nella scrittura di questo libro, che è il professore della Scuola Normale Superiore di Pisa, Glenn Most, e che sempre lavorando con lui mi diceva: non scrivere giovani, non scrivere giovani, perché non sappiamo esattamente quanti anni esatti hanno gli Argonauti.
Elle profite pour remercier son professeur de l'école supérieure de Pise, Glenn Most, qui l'avait incité à ne pas utiliser le mot « jeune » quand on parle des Argonautes. Elle disait « ne le mets pas, parce qu'on ne le dit pas, on ne le dit pas. On arrive à le comprendre, mais on ne le dit pas. » Et donc, il avait exhorté comme ça à ne pas dire ça.
Quindi lo ringrazio due volte. La prima perché mi ha insegnato l'eleganza del modo di vedere il mondo greco antico. Giovani o vecchi, le età della vita non erano basate su quella che oggi chiameremo biografia. Andrea Marco Longo, nata 32 anni, ma giovane e vecchio erano veramente il rapporto all'apertura ogni giorno ad accettare la vera sfida, che non è partire per mare, ma è vivere in dignità e in pienezza. Quindi si poteva essere vecchi, bambini o giovani, vecchi per tutta la vita.
Elle remercie encore le professeur parce qu'il lui a appris en effet l'élégance de voir le monde grec. Et en effet, dans le monde grec, il n'y a pas cette différence, cette distinction entre vieux et jeune. Et pour elle, c'était vraiment un défi. Et ce qu'elle a voulu exprimer, c'est la dignité et la plénitude. Voilà, c'est ça qu'en effet, elle a voulu exprimer.
Et non voglio parlare tutta la sera di Glenn Moss, ma vorrei ringraziare anche la mia casa editrice, Le Belle Lettre, che ha ripubblicato Le Argonautiche di Apollonio Rodio con una prefazione di Glenn Most. È stato un grande regalo, non solo per me, ma diciamo per gli Argonauti di ogni età.
E il deuxième cadeau, en effet, c'est l'édition des Belles Lettres qui a réécrit donc les Argonautiques avec une belle préfaction du professeur che Andrea a eu, Glenn Most.
Bon, je vais répondre. Quel manuale inglese appunto del 1942, How to Abandon Ship, l'ho fortemente scelto perché non mi piacciono i libri che sono un monologo. La Langue Géniale in ogni capitolo è aperto da una poesia contemporanea. Amo molto la poesia, però non volevo che fosse il greco a parlare con il greco. Volevo un dialogo, non tra presente e passato, ma tra senso e senso.
Donc le petit livre qui l'a, on va dire, inspiré, elle a beaucoup aimé parce que c'est pas un monologue. Et la langue géniale, à chaque chapitre, il y a une poésie qui ouvre en effet le chapitre.
Excuse-moi, André. Une poésie contemporaine. Non, l'ultima phrase que non. È tutto senso, senso. Sì, perché mi piacciono i libri che sono un dialogo.
Ah, voilà. Elle adore les livres qui sont un dialogue.
Donc, je ne voulais pas. Oh, on parle de la langue géniale. Je ne voulais pas raconter les Grecs anciens avec la poésie grecque. Ça, c'est un monologue pour moi. Mais avec la poésie contemporaine. Pas pour. Pas pour valuer, bon, combien de temps s'est passé, tout ça, mais vraiment pour essayer de rechercher. L'essence. Et je fais la même chose pour la part du héros. C'est manuel, publié en Amérique dans les 1942. C'est vraiment manuel. Manuel, quelque chose que ça veut dire qu'il faut le tenir dans les mains. Ça, c'est étymologiquement, ça veut dire ça, manuel. Il n'était pas un livre. Il était un manuel sur comment abandonner un navire en cas de naufrage. C'était ça. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les émigrants étaient notre père, nos familles, qui l'ont, ils sont partis à chercher de la chance de l'autre côté du monde. Donc, si vous avez vu Titanic, bon, les naufrages, c'était à l'ordre du jour. Et Saint-Manuel n'a rien à faire avec la littérature. Moi, je ne comprends pas. Je suis tombée amoureuse de Saint-Manuel quand j'étais en vacances, il y a, je pense, 7 ans, en Angleterre. Et je l'ai toujours, vous avez dit, porté avec moi. Maintenant, j'ai arrêté parce qu'il est tellement... Bon, oui, c'est ça. Parce que, bon, moi, je ne comprends que le 10% de Saint-Manuel. Parce que, vraiment, il parle de vente, de non, de cose d'affaires.
Il parle des choses techniques.
Des choses très techniques. Mais le 10%, c'est vraiment le miroir de l'histoire, de du mythe des Argonautes. Quand il dit, bon, vous avez fait un naufrage, vous êtes tout seul dans la mer. N'oubliez pas les amis. Et moi, je demandais à moi-même, bon, ils sont où les amis? Je suis tout seul dans l'océan, donc ils sont où? Et l'auteur dit, il n'y a pas besoin que les amis ou qui nous aimons, ils sont ici. Il faut les sentir à travers l'empathie. Empathie. C'est pas la sympathie que ça veut dire avec quelqu'un ou l'antipathie contre quelqu'un. Ou quand il dit, bon, c'est le bonheur qu'il souffre. Bon, que c'est plus important de boire de l'eau. Et moi, j'étais étonnée. Je pensais, bon, c'est bizarre ça. Non, c'est vraiment comme ça. Quand ils disent que les vrais naufrages, ils sont rares dans la vie. Ici, on va réfléchir. Les vrais naufrages de la vie, ça ne passe pas chaque jour. Ils sont 2, 3 peut-être. Mais c'est le final. Parce que si les Argonautes, en même temps, quand même, font naufrage. Mais c'est quand ils disent que le risque plus grand d'un naufrage, ce n'est pas la mort, tout ça. C'est de rentrer, de retourner et de se refuser des parties encore. Ça, c'est payeur.
Là, vous avez mentionné donc ce manuel qui revient très fréquemment, puisqu'au début de chaque chapitre, vous nous donnez une phrase. C'est intéressant de pouvoir comparer la langue d'Apollonios de Rhodes, le récit héroïque des aventures de Jason, de Médée et des compagnons de Jason, avec ce manuel très technique sur comment se comporter en cas de naufrage. Mais au fond, donc, il y a entre ces deux façons de parler une sorte de parenté que vous nous faites comprendre. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, vous parlez d'héroïsme tout au long de ce livre, l'héroïsme des Argonautes, l'héroïsme aussi de ces marins perdus en mer et qui cherchent à se sauver. Les éditions des Belles Lettres ont traduit votre livre par La part du héros. Le titre italien, c'est La misura eroica, la mesure héroïque. Peut-être pouvez-vous commenter cette petite nuance qui existe dans le titre français, où on ne retrouve pas la mesure, cette notion de mesure, qui est une notion très importante chez les Grecs, la notion de mesure, notamment dans quelques expressions que vous rappelez, comme « médène, agane, rien de trop », ne jamais exagérer, dans la victoire comme dans la défaite, médène, rien de trop. La mesure, c'est une notion très importante, alors que dans l'héroïsme, parfois, on a une idée de l'héroïsme comme quelque chose de très extrême, de très important, de très fort, où la victoire est toujours là. Or, vous nous dites que entre la victoire et la défaite, il n'y a pas tant de différence, et qu'il y a peut-être un comportement à apprendre en lisant les mythes grecs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oh, sì, questo è il punto principale del libro, il motivo per cui l'ho scritto. Come non per raccontare la storia degli Argonauti, ma per lanciare un appello al presente.
Alors, l'héroïsme, c'est le thème qui l'a forcé à écrire ses livres. Ce n'est pas pour raconter, c'est vraiment un appel.
Au présent.
Un appel au présent.
Au présent. Dico sempre che scrivere libri appunto sul classico non significa scrivere qualcosa di 3000 anni fa, significa sempre scrivere di presente per cercare di avere una visione del futuro.
Quand elle écrit sur le classique, en effet, elle n'écrit pas les choses qui appartiennent au passé, mais c'est quelque chose qui appartient au présent et avec un regard vers le futur.
Quindi, eroe, è Platone a dire nel simposio che non esiste al mondo un uomo così vigliacco che amore non può trasformare in eroe.
Alors Platone dit qu'il n'y a pas un héros, il n'y a pas un homme qui peut être si lâche et que c'est seulement l'amour qu'il peut transformer, le transformer en héros.
E quindi, come dire, idea, l'etimologia, eros come amore, eros come eroe, che in greco sono separate soltanto da epsilon e eta.
Il y a vraiment une petite différence. Héroe, déjà en italien, on n'a pas la H. Et c'est vraiment la E, c'est seulement la E la plus longue qui fait la différence entre héros, H et R-O-S, et Eros. Hein? Donc, avec une idée érotique. Voilà.
Essere eroi per i greci non era un, come si può dire, un nobile appellativo morale, era un obbligo per vivere la vita in pienezza. Non era un'opzione, era un dovere.
Voilà, être un héros pour les Grecs, c'est pas une option. C'est juste le devoir d'être noble et digne et de vivre avec dignité la vie.
In un'epoca di performance, di gara, di competizione come questa, ritornare all'idea che siamo al mondo per fare cose grandi e non cose da poco, ma con la misura, che non è la misura delle scarpe o la misura di qualcosa di grande, non importa. Per i greci non era importante che fosse l'ultimo dei pescatori o il re di qualche città. Ogni essere umano è eroico, se sa per conoscere se stesso.
Vuol dire, non tradirsi. Tous les hommes peuvent être des héros. Ils sont là pour chercher quelque chose de noble. Et tout le monde peut atteindre de grandes choses. Et simplement, il ne faut pas aller à la baisse dans une société qui vise à la compétitivité. Mais il faut essayer d'aller vers le haut et donc de s'élever.
È Dante ad avermi ispirata quando nel Paradiso della Divina Commedia dice esattamente questo. Chi vogliamo essere? Dove vogliamo andare? Vogliamo essere a bordo di una piccioletta barca? Una barca da poco, sopravvivere, stare a galla? O un navigio? Un navigio che contiene la parola nave e viaggio insieme, una nave solida come Argo.
Allora, elle a été aussi inspirée par Dante dans le paradis de la Divine Comédie. Et Dante se pose des questions. Voulons être? Où voulons-nous aller? Voulons-nous rester dans une piccoletta barca, un tout petit navire, ou on préfère le navigio, c'est-à-dire un grand navire. Et dans le mot ancien italien, dans le mot navigio, il y a deux mots, c'est-à-dire la nave, c'est-à-dire le navire, mais il y a aussi le mot viaggio, c'est le voyage. Donc les deux mots ensemble. Et Argo, c'est donc le grand navire qui peut accueillir les argonautes.
Et il concetto di eroe mi sta molto a cuore oggi, perché appunto siamo abituati al supereroe. Se mi permettete una metafora, perché è questo che serve il mito. Siamo tutti a bordo di una nave che si chiama Europa e questa nave sta affondando e cerchiamo il supereroe che venga a salvarlo. No, è nostra precisa responsabilità. Quando si dice è tutta colpa della società, ma noi siamo parte della società, la società non è là fuori. È anche un invito, un appello ad essere compagni di viaggio. La nave Argo non ha un capitano. Siamo tutti a bordo della stessa nave, la responsabilità di dove condurla è tutta nostra.
Dunque, on est à la recherche d'un super-héros et elle a fait elle a parlé de ce navire qui est l'Europe. Et en ce moment, on essaie de trouver des excuses, de donner la culpabilité à l'un ou à l'autre, c'est pas ma faute. Mais nous, on fait partie de cette société et donc on a des responsabilités qui sont très précises.
Quindi essere eroe non significa essere il primo, il più bravo, il campione. Significa non essere mai il numero due di noi stessi.
Et donc le être un héros, c'est pas être le meilleur. C'est lui qui arrive le premier, mais c'est lui, en tout cas, qui est jamais deuxième par rapport à lui-même.
Vous avez parlé de Dante, donc l'auteur emblématique de la littérature italienne. D'ailleurs, le premier passage que vous nous proposez, c'est une longue citation du deuxième chant du paradis de Dante, où il est question de cette petite barque dans laquelle nous sommes, et peut-être de ce grand navire qu'Apollonios de Rhodes sur lequel Apollonios de Rhodes nous propose d'embarquer. Ces bateaux donc nous emmènent très loin, et ils emmènent celui sur lequel monte Jason l'emmène jusqu'à Médée. Jason et Médée, j'aimerais que vous nous en parliez, parce que c'est un couple de la mythologie aussi important que Ulysse et que Circé, aussi important que d'autres couples de la mythologie. Qu'est-ce qui vous touche dans le lien qui existe entre ce jeune homme qui cherche son accomplissement et cette jeune fille qui possède des pouvoirs extraordinaires, mais qu'elle ne connaît pas complètement, et qui va permettre à ce jeune homme d'advenir dans son héroïsme, et qui va aussi révéler Médée à elle-même, mais seulement au moment où elle va choisir l'amour, le départ, le voyage, le risque, et le choix de quitter son milieu, son palais, sa famille, pour un horizon inconnu. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans le couple que forment Jason et Médée?
Intanto dimostra ciò che diceva Platone. Eros come eroe, eros come amore.
Déjà, elle reprend le concept de Platon, héros, et aussi héros, eros, dans la signification d'amour.
Dopodiché mi colpisce molto, ma questa è una questione femminile che riguarda tutta la letteratura greca. Se anche pensate a Iliade e Odissea, i protagonisti sono uomini, da Giasone a Ettore, eppure vengono umanizzati, in qualche modo attivati dall'amore delle donne.
Elle dit, c'est une question féminine. Même dans les œuvres comme l'Iliade et l'Odyssée, les protagonistes sont des hommes, mais ils sont toujours, ils bougent. Hein, il y a un mouvement qui est donné par les femmes.
Di questa coppia mi colpisce, tornando alla domanda, il fatto che Medea sia straniera rispetto alle eroine omeriche. Se pensiamo a Andromaca, Circe, che è peraltro la maga Circe, la zia di Medea, fino a Calipso, Nausica, Ecuba, sono donne bidimensionali, C'è solo la madre in Omero, e la moglie, la seduttrice, la traditrice, Nausicaa, la fanciulla.
Dans les autres œuvres, comme l'Iliade et l'Odyssée, on a des personnages féminins qui sont très distingués, c'est-à-dire on a la femme, la mère, l'épouse, celle qui trahit, la jeune fille, comme Nausicaa, tandis que...
Invece Medea è per me la femminilità tout court, perché è allo stesso tempo figlia, sceglie di essere moglie, è traditrice, è seduttrice, è maga. Credo siamo tutte noi donne, senza togliere gli uomini, esattamente questo.
Tandis que Medea, en effet, elle est tout ensemble. C'est la jeune fille au début qui découvre l'amour. Elle est, c'est la femme qui mûrit, c'est l'épouse, c'est aussi la fille qui quitte le père, c'est la magicienne et c'est aussi la séductrice. Donc c'est tous ces visages différents qui font partie en effet de la personnalité de nous, les femmes.
Et ciò che più mi colpisce è che Medea è straniera, non è greca, e sconterà questo suo essere straniera per tutta la vita. Ma se pensiamo che questo mito, il mito degli Argonauti, è più antico e anteriore a Iliade e Odissea, Omero dice, è a tutti ben noto, non c'è nemmeno bisogno di raccontarlo. Significa che la visione del mondo greco ha avuto bisogno di collocare la femminilità, tuku, lontano da casa.
E quelque chose qui a vraiment frappé Andrea, c'est que Médée, elle est étrangère. Et bien sûr, les Argonautes, c'est quelque chose qui a été réalisé bien avant l'Iliade et l'Odyssée, mais on a fait recours à la personnalité de Médée. Et Homère, quand il parlait, et il disait, mais cette histoire, les Argonautes, ben, tout le monde est à connaissance. Et en effet, on a voulu éloigner l'idée de la femme, de ce qui est le classique grec.
Pardon. Je voudrais revenir sur le voyage. On a compris que les Argonautes partent et reviennent, pas du tout par le même chemin, comme les Grecs, comme Ulysse est parti à la guerre à Troie et puis est revenu par un très long détour qui l'a ramené à Ithaque. L'Ithaque des Argonautes, c'est un petit endroit qui s'appelle Iolcos, au nord de la Grèce. Peu importe, ce voyage, c'est le nôtre, évidemment. Le voyage, vous dites, il y a un aller, il y a un retour, mais l'aller et le retour ne sont jamais les mêmes. Dans votre histoire, vous avez appris le grec, vous êtes parti vers le grec, et puis vous êtes revenu vers votre vie. Dans ce livre, il y a bien sûr la géographie, le mythe, les légendes, mais il y a aussi les mots. Je reviens à votre livre, La langue géniale. Il y a le découvrir les mots et découvrir notre monde à travers les mots. Un des principaux enseignements de votre livre n'est pas d'inciter les gens, comme vous, comme moi, comme vous tous ici, à partir vers les mots, vers les racines des mots, essayer de les comprendre. Vous avez de très nombreux passages dans ce livre où vous expliquez les racines des mots. Vous prenez de longs paragraphes pour les expliquer. Vous nous parlez de la liberté, vous nous parlez de la mesure, vous nous parlez de beaucoup de notions en décortiquant les racines des mots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la place que cela prend dans votre projet?
Tanto cito Balzac, quando diceva il viaggio più bello l'ho compiuto a bordo delle parole. E anche per me è così.
On va citer Balzac quand il dit que le voyage le plus beau, c'est à l'intérieur des mots. Et même pour Andrea, c'est comme ça.
Et vorrei anche chiarire la parola viaggio. Viaggio per me, non per me, nel mito non significa spostarsi da A a B, da un luogo all'altro. Si può viaggiare dentro di sé, anche stando fermi sulla poltrona. E viaggio non è avventura. Viaggio non significa ora parto e vediamo come va. Viaggio è ho ben chiaro dove sto andando.
Dunque, c'est de donner une idée de ce qui est le voyage dans le mythe. Et le voyage est vraiment le contraire de ce qui est aventure. Voyage ne veut pas dire bouger forcément. Ça peut aussi dire rester immobile, mais faire un voyage intime, un voyage à l'intérieur de nous-mêmes.
Grazie per aver questa domanda, perché da sempre sono ossessionata dall'etimologia.
E di che le vraiment ossessionée par l'étymologie, et c'est pour ça qu'elle elle consacre beaucoup de temps à comprendre la racine des mots.
Stasera ve ne regalo una che sto studiando, che ho scoperto due giorni fa, ma appassionarsi, come nel mio caso, all'etimologia delle parole non significa un gioco di erudizione, perché basta comprare un dizionario, non è che ci vuole né avere la battuta pronta. In greco etimo, etimos, significa reale.
Dice, c'est pas une question de réduction, hein? Il suffirait d'acheter un dictionnaire pour trouver toutes les racines du mot. Et elle me dit, je vais vous faire aussi un cadeau, c'est quelque chose que je viens de découvrir il y a deux jours. En grec, l'étimo, ça veut dire réel.
Oui, réel. In una realtà complicata come quella di oggi e sicuramente di ieri, ritornare alle radici delle parole che usiamo ogni giorno, perché il linguaggio è davvero il limite del nostro mondo, come diceva Wittgenstein, significa spogliare di gradi di complessità la realtà.
Dice, la realtà aujourd'hui, elle est très compliquée.
Peut-être aussi hier.
Aujourd'hui, comme
c'est toujours compliqué. Voilà.
Aujourd'hui comme hier, ce qu'elle essaye, c'est de dévoiler, vraiment de dévoiler les mots et pour les rendre réels.
Peut-être on peut prendre un exemple.
Oui.
Je vais vous donner un exemple parce que j'en ai un sous les yeux là. Donc, vous parlez du verbe discerner, discernere, découvrir, discerner. Vous dites discerner, discernere en italien, est un mot magnifique que l'on utilise trop peu aujourd'hui. Il dérive du latin discernere, qui vient à son tour du verbe cernere, désignant à l'origine la minutieuse activité de séparer la graine de son enveloppe pour glisser ensuite vers l'activité plus délicate encore de tamiser nos pensées, surtout les plus petites, aussi insaisissables que le blé moulu, pour pouvoir les séparer et pour savoir enfin les critiquer, c'est-à-dire les évaluer, les soupeser pour ce qu'elles sont et ce qu'elles valent, etc. Je ne vais pas aller au bout, c'est à vous développez beaucoup, mais à travers un mot, on peut.
Oui.
Il y a tout un petit univers qui se déploie à chaque fois.
Quand il me demande, ça veut dire quoi l'étymologie pour moi? Moi, je réponds, c'est quelque chose de bizarre. Mais il y a deux jours que j'ai découvert l'étymologie de bizarre. Bizarre aussi, il y a aussi en français, non? C'est bizarre. Bizarro viene da una parola, da un'onomatopea, alto medievale, bis, bis. Il suono che emette un insetto molesto.
Ah, voilà. C'est un mot onomatopéique, vous savez, le bruit. Et ça vient du Moyen-Âge. En effet, c'est le bruit des insectes. Bzz, bzz.
Dalla stessa parola viene bizza, che è la puntura dell'insetto.
Bizza, c'est la piqûre de l'insecte.
E il cavallo quando è imbizzarrito.
Et le cheval, quand il monte hein, dans les deux pattes,
oui.
En italien, on dit imbizzarrito. Hein.
Donc, ça, c'est vraiment ça pour moi, l'étymologie. C'est quelque chose qui va nous piquer,
oui.
Et nous réveiller, à nous réveiller, aujourd'hui. et qu'on permette à mon temps de piquer la réalité contemporaine.
On peut prendre un autre exemple très court, mais un mot très important qui est la liberté. Hein, liberté, ça se dit libertas en latin, ça se dit eleutheria en grec. Mais ce que vous nous dites, c'est que ces deux mots, en fait, viennent tous les deux de la même racine. C'est la racine de cette très vieille langue qui s'appelle l'indo-européen, dont dérivent nos langues, presque toutes nos langues, pas toutes, mais presque. Et vous dites ces mots remontent à une très ancienne racine indo-européenne, l'eudéro, c'est-à-dire celui qui peut appartenir à un peuple. Est-ce que ce n'est pas très clair, finalement, la liberté, quand on se réfère à l'étymologie?
Oui, mais tout c'est plus clair, quand se réfère à l'étymologie. Il faut d'avoir courage, parce que on si può mentire con l'etimologia.
On peut pas mentir avec l'etimologia, donc avec la racine.
E volevo aggiungere una cosa sul nostro, sul viaggio di andata e di ritorno. In Spagna mi hanno chiesto, ma i greci che popolo erano? Un popolo di nostalgia.
La douleur du voyage, la douleur du retour.
No, oui. Ma la parola nostalgia greca antica non è. È fondata su due parole greche, ma è stata coniata nel 1700 da uno studente di medicina che ha unito nostos, ritorno, e algos, dolore.
Il voyage d'aller-retour, en effet, c'est, elle parle de nostalgia. Et en effet, c'est un mot qui a été créé en 18e siècle par un étudiant de médecine. Donc
les Grecs ne connaissaient pas.
Voilà, les Grecs ne connaissaient pas. Et quand elle était en Espagne, des étudiants lui ont demandé, mais quel peuple étaient les Grecs? C'était un peuple de nostalgique.
Perché ogni mito si conclude con il ritorno a casa, con il bisogno di tornare. Il rischio più grande di un viaggio è o non partire mai o non tornare mai.
Voilà, parce que tous les mythes, en effet, finissent avec le retour à la maison. Et donc, soit on n'a pas le courage de partir, soit on revient.
Alors justement, est-ce que le retour à la maison dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas peut-être pour notre présent à nous, le retour un petit peu au grec et au latin, en tout cas le retour au mythe, le retour aux légendes, le retour à la littérature des anciens, la littérature classique, le retour à Tacite, le retour à Thucydide, le retour à Virgile, le retour à Ovide, etc., 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 à tout ce trésor de la littérature ancienne, antique, que nous avons en partie oublié, et vers lequel nous aurions besoin de revenir. Ma question, c'est, est-ce que vous êtes triste de l'état des humanités, c'est-à-dire de l'apprentissage du grec, du latin, en Italie, en France, ailleurs, et est-ce que vous pensez que nous pouvons envisager un retour profitable vers ces sources-là?
Questa domanda mi è stata posta più o meno in 20 paesi che vanno dalla Francia alla Spagna, alla Germania e all'Olanda. Sì, il classico è in crisi. Per fortuna, aggiungo. Calvino, nelle sue lezioni americane, dice che il classico è ciò che è in crisi per definizione, che ci costringe etimologicamente, crisi, a sceglierci come esseri umani.
La question elle a été posée dans 20 différents pays. C'est vrai, tout ce qui est monde classique est en crise. Et la réponse vient peut-être d'Italo Calvino dans un livre qu'il a écrit, c'est les leçons américaines, où effectivement, il faut encore s'adresser à quelque chose qui est en crise.
Quindi, di nuovo, la responsabilità è tutta nelle nostre mani. Io penso che leggere oggi Tucidide, la guerra del Peloponneso, non serva per imparare a memoria la lingua greca antica o per imparare a memoria come è andata quella guerra, ma Ktema esaei, questo in greco, insegnamento.
Des choses pour toujours.
Per sempre, per capire come stanno andando le guerre di oggi, non quelle di 2500 anni fa. Lo stesso vale per ogni ambito.
Oui, il y a la liaison entre le passé et le présent, donc comprendre en effet les guerres qui ont été lieu auparavant, en effet, c'est comprendre ce qui se passe maintenant.
Classico non è ciò che è vecchio. Il mio libro può restare qui, alla libreria Mollà, 3000 anni, ma forse non diventerà classico.
Et dit classique, ça ne veut pas dire vieux. Et son livre peut rester des années et des années dans la librairie. Donc c'est vraiment... C'est
un devenir, un classique.
C'est un devenir, voilà.
C'est ça. Mais il classico è ciò che non smette mai di porci delle domande sul presente, oggi.
Voilà, le classique, c'est quelque chose qui n'arrête jamais de nous poser des questions, mais maintenant, au présent.
Quindi la soluzione per me non è studiamo tutto il greco perché è più bello dello spagnolo. Salviamo come si salvano le cose di nuovo nei musei e magari le andiamo a vedere la domenica.
E per lei la questione non è pas di sauver le grec come perché è una lingua ancienne o come on dit maintenant una lingua morta. On pourrait dire la même chose pour l'espagnol.
Pas vraiment, oui. Non? Oui, oui, je ne veux pas dire que le grec c'est plus belle de
l'espagnol.
Oui, elle
ne veut pas dire que le grec c'est plus beau non. Qu'une autre langue.
Per me il punto centrale è vogliamo capire che esseri umani siamo oggi nel 2019.
Elle voudrait simplement comprendre ce que nous sommes aujourd'hui en 2019.
Per questo io intendo per studi umanistici. Studiano gli esseri umani. Quindi questa crisi del classico ci dà l'opportunità di o scoprirci o essere vigliacchi, di nasconderci. La crisi, sta di nuovo a noi.
La crisi du classique, en effet, c'est de faire un choix. O de rester de lâche ou d'avoir le courage de changer.
Il y a eu d'ailleurs une nuance entre le courage et l'héroïsme. Vous pouvez revenir juste un instant sur cette nuance. Le courage d'un côté, coraggio, l'héroïsme.
C'est pas facile de quitter de partir, mais pas à la mer. C'est pas facile de laisser tout ce qui est sûr, connu, confortable, l'habitude. Moi, je ne suis pas heureuse. Je me plains chaque jour. Mais tu es sûr, il faut avoir un grand courage pour accepter de... Non, Andrea, tu n'es pas né pour ça. Ta mesure, ma part du monde, c'est ça. C'est pas de l'accepter, de dire, de refuser. Tu sais que... n'est pas pour moi. Ça, encore écouter les sirènes, c'est trahi. Ça, c'est vraiment difficile. Il faut avoir le même courage chaque matin quand on se voit au miroir et de se demander est-ce que nous sommes heureuses. Heureuse, étymologiquement, ça veut dire fertile. Fertile. Ça veut donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire de notre vie?
Mais si nous faisons ce voyage, si nous faisons ce travail, nous pouvons être heureux. Vous dites à la fin que les argonautes rentrent chez eux comblés de joie. Et puis vous citez aussi d'autres phrases. Vous citez par exemple, je l'ai noté là, une phrase du poète Pablo Neruda que vous aimez beaucoup.
Oui, parce que j'ai terminé d'écrire.
Et qui dit. J'ai tant navigué que je suis à présent de retour pour construire ma joie.
Voilà.
Pourquoi avoir parlé de Pablo Neruda?
Ah, parce que j'ai terminé d'écrire le livre en Amérique du Sud. Pour moi, et donc je reviens à la question des classiques. L'année dernière, j'ai beaucoup voyagé avec mes livres en Amérique du Sud. La première fois qu'ils m'ont invité en Pérou, en Chili, au Chili, moi j'étais étonnée. Et j'avais vraiment peur. Je pensais, bon, mais moi je pars à parler du grec là. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est vraiment bizarre ça, parce que personne ne connaît les Grecs. Enfin, si ici en Europe c'est en crise, là-bas c'est quelque chose d'inconnu. Ce que m'a donné. Et après, je suis retournée en Mexique. Je peux vous raconter beaucoup des anecdotes. Mais la chose plus belle et plus précieuse, vraiment, qui s'est passée en Amérique du Sud, c'est que c'était pour moi plus facile de raconter la beauté d'Homère ou bien du grec au monde qui n'avait aucune idée c'était qui Homère. M'a jamais demandé est-ce que c'est utile, ils servent à quoi, comment moi je ne vais pas demander Proust c'est utile ou pas, donc c'est pas utile, non, bon je vais pas lire quelque chose de différent. Donc voyager en Amérique du Sud a pour moi m'a ouvert les yeux. Il m'a redonné la merveille, la vraie merveille du classique, sans toutes les polémiques. Utile, inutile, servent à quoi? Il faut apprendre ça, la réforme. Est-ce que c'est toujours la même chose qui se passe ici en Europe? Ici en Europe, on dit toujours, bon, les classiques, ils sont notre racine. Et moi, je réponds toujours, oui, c'est vrai, ils sont les notre racine. Culturel et aussi linguistique. Mais ce, on parle à travers la métaphore de les racines. C'est où l'arbre? L'arbre, il peut avoir les plus belles racines au monde, mais s'il ne produit pas les fruits, des fruits, l'arbre est stérile.
Sur l'accessibilité de tous ces textes, je crois qu'il faut dire qu'il n'est pas nécessaire de connaître la langue grecque, ni le latin, même si c'est magnifique, même si c'est difficile, mais c'est... En tout cas, ces textes sont parfaitement accessibles. L'année dernière, ou il y a 2 ans, nous avons ici même parlé de la nouvelle traduction en français des Métamorphoses d'Ovide par une professeure de latin d'un collège de Bayonne, et une traduction magnifique qui nous rend Ovide dans une langue très proche. Voilà, c'est intéressant de pouvoir... savoir que les textes d'Ovide, les textes de l'Énéide, les textes d'Homère, les textes d'Apollonios de Rhodes sont accessibles dans des traductions modernes et qui sont très, très, comment dirais-je, qui nous rendent le texte dans sa fraîcheur.
Mais bien sûr, mais c'est pour ça, dans l'édition italienne, moi j'ai choisi de retraduire les Argonautes moi-même à partir du début des belles lettres. Mon éditeur m'a dit, ils servent à quoi? Tu vas perdre ton temps.
Je précise que l'éditeur est dans la salle.
Non, mais l'éditeur italien, c'est pas ici. Non, mais
m'a dit... Non, mais les belles lettres.
Les belles lettres, c'est ici, oui. C'est un... Il m'a dit, non, mais c'est pas utile. Nous avons la traduction de... Vraiment, il y a 200 ans, mais c'est bon. Non, c'est pas bon. Encore, classique, ça veut dire pas inaccessible. Quelque chose de vieux. Il est écrit 3000 ans, donc c'est pas pour nous. Oui, bien sûr. Mais c'est comme si nous demandions, bon, est-ce que c'est accessible? Oh, encore, moi, j'adore les défis intellectuels. Est-ce que Proust, c'est accessible?
Très accessible.
Moi, je l'adore bien, mais c'est comme, oui, bien sûr. Mais moi, je ne...
Vous le citez d'ailleurs dans votre livre.
Ah oui, mais je le cite toujours. Mais il ne faut pas connaître encore l'espagnol pour aimer Garcia Marquez. Il a les traductions. Donc, ce n'est pas nécessaire d'étudier toute la vie le latin pour lire Ovide. C'est vraiment nécessaire.
Vous allez nous offrir une traduction bientôt
Non. De quoi?
Vous allez nous offrir une traduction d'une grande œuvre classique?
Non, mais je viens de traduire un petit peu les flamands. d'Héraclite. C'était quelque chose super. Et c'était vraiment difficile. Non, c'était... Donc, ça me donnait du bonheur.
Dites-nous un fragment d'Héraclite. Donnez-nous un fragment d'Héraclite.
Les arêtes de la vie sont dans chaque instant. Oui, c'est Héraclite, c'est pas moi. Oui, c'est compliqué. Les arêtes de la vie sont dans chaque instant. C'est tout, c'est enflammé.
Ils sont dans chaque instant, donc Héraclite.